VOA Afrique, le monde aujourd'hui.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 19 avril 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous, à la une de nos informations. La Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président, Tsemoko Meli-Kone, gouverneur de la BCAO, a été nommé à ce poste vacant depuis près de 2 ans, tandis que le premier ministre Patrick Achi a été reconduit dans ses fonctions. L'Afrique du Sud évalue l'étendue des dégâts des graves inondations qui ont fait au moins 443 morts. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré hier l'état de catastrophe nationale. Le premier procès en Afrique, en Centrafrique, de la Cour pénale spéciale qui devait s'ouvrir ce mardi à Bangui a été reporté au 25 avril en raison de l'absence des avocats de la défense. La grande offensive russe attendue dans l'est de l'Ukraine a débuté, Moscou annonçant vouloir libérer militairement le Donbass. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé le banquier Tsemoko Meli-Kone vice-président. Il a aussi reconduit Patrick Achi au poste de premier ministre. Le chef de l'État ivoirien a annoncé ses décisions devant les parlementaires réunis en congrès, Assemblée nationale et Sénat dans la capitale politique Yamoussoukro. Compte rendu, Aïcha Diarra, correspondant de la VOA Abidjan.
Dans un discours d'environ 33 minutes devant les parlementaires, Alassane Ouattara a fait le point de la vie politique, économique, sanitaire et sociale de la Côte d'Ivoire. Patrick Achi est reconduit comme premier ministre et il a proposé la nomination de Tsemoko Meli-Kone comme vice-président.
C'est une personnalité ayant une grande expérience gouvernementale. C'est un technocrate hors pair qui a occupé de hautes fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. J'ai donc porté mon choix sur M. Tsemoko Meli-Kone.
Le 5 mars 2020, c'est-à-dire 2 ans auparavant, il avait nommé un autre banquier, Daniel Kablan Duncan, comme le premier vice-président ivoirien. Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
L'armée française a officiellement remis aujourd'hui aux forces maliennes les clés de la base de Gossi, dans le nord du Mali. Étape majeure du départ de la force anti-djihadiste Barkhane du pays, a indiqué l'état-major français. Le président français a décidé en février un retrait militaire total du Mali dans un contexte sécuritaire dégradé et une crise diplomatique entre Paris et Bamako, où une junte militaire a pris le pouvoir. Le ministre burkinabé de la Réconciliation nationale a assuré ce matin dit que de nombreux jeunes combattants des groupes armés qui sévissent dans le pays sont dans l'impasse et ont manifesté leur désir de dialogue, justifiant cette nouvelle approche du gouvernement. Début avril, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, auteur d'un coup d'État le 24 janvier, avait annoncé la création de comités locaux de dialogue avec des groupes djihadistes. La raison de ce dialogue, c'est qu'on est dans l'impasse. Le chemin dans lequel ils se sont engagés est un chemin sans avenir, c'est le constat fait par ces jeunes, a assuré ce mardi le ministre Yero Boli. En Centrafrique, à peine ouvert, le premier procès devant la Cour pénale spéciale chargée de juger les crimes de guerre et crimes contre l'humanité depuis 2003 dans ce pays a été reporté au 25 avril. Le point avec Abdou Ramandia.
Ce report à la semaine prochaine est dû à l'absence des avocats de la défense qui ont boycotté la séance faute d'entente sur leur rémunération. À l'ouverture, le ministre centrafricain de la Justice a pourtant salué un procès historique. Pour le premier procès de la CPS, ce sont Issa Saleh Adoum, Ousmane Yaouba et Tahir Mamat qui sont devant la barre pour des crimes présumés commis en 2019. Membres d'un des plus puissants groupes armés centrafricains, les 3R, ils sont accusés du massacre de 46 civils dans des villages du nord-ouest du pays. Ce procès, tant attendu dans ce pays miné par la guerre, s'ouvre 7 ans après l'inauguration de la Cour pénale spéciale, un tribunal hybride composé de magistrats nationaux et internationaux. Si la CPS est louée par certains comme un modèle de justice à exporter dans d'autres pays en guerre civile ou qui s'en relèvent, d'autres doutent de son efficacité tant elle a tardé à ouvrir son premier procès. Créée en 2015 par le gouvernement avec le parrainage de l'ONU, c'est finalement en octobre 2018 que les travaux ont été lancés.
En Afrique du Sud, les pluies diluviennes et les glissements de terrain ont laissé un paysage dévasté autour de Durban, épicentre des intempéries, qui ont fait au moins 443 morts sur la côte Est. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré hier l'état de catastrophe nationale. Plusieurs ministres sont sur les lieux. Nathalie Barge.
Le port de Durban a été gravement touché. De nombreuses entreprises ont vu leurs équipements et leurs sites détruits. La ministre chargée de la gestion des catastrophes, Nkosazana Dlamini-Suma, a déclaré qu'il s'agissait des pires inondations que le pays ait connues. Le ministre de la Santé, Djopala, a estimé que le principal défi est l'eau. Près de 80% du réseau a été impacté et des habitants sont privés d'eau potable depuis 8 jours. Des camions-citernes tentent d'acheminer des réserves, mais certaines zones sont inaccessibles. 10 000 soldats, dont des plombiers et des électriciens, ont été déployés. La ministre de la Défense, Sandy Modiz, a dit que des équipes vont installer des citernes et se charger des systèmes pour purifier l'eau. Au moins 270 000 élèves ne sont pas retournés en classe. Plus de 600 écoles ont été touchées et environ 4 000 maisons détruites. 40 000 personnes ont dû quitter leur foyer. Des hélicoptères survolent encore la ville à la recherche de dizaines de personnes toujours portées disparues.
En Libye, Amnesty International a dénoncé aujourd'hui la détention de 9 manifestants pacifiques par les forces alliées de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, appelant à leur libération. D'après l'organisation, ces personnes ont été arrêtées après avoir manifesté pacifiquement à Sirte le 19 mars aux côtés d'une trentaine d'autres manifestants pour appeler la communauté internationale et les autorités locales à indemniser les victimes des frappes aériennes de l'OTAN en 2011.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré aujourd'hui à la Russie que le droit international doit être respecté dans la guerre en Ukraine et il a appelé au dialogue pour mettre fin au conflit. Monsieur Faki, qui dirige la branche exécutive de l'Union africaine, a déclaré sur Twitter qu'il avait reçu un appel téléphonique du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. J'ai souligné la nécessité de respecter le droit international et appelé au dialogue pour une solution pacifique au conflit entre la Russie et l'Ukraine, a-t-il notamment déclaré dans un bref message. La Russie affirme que ses forces ont mené des dizaines de frappes aériennes dans l'est de l'Ukraine dans le cadre d'une nouvelle offensive dans la région de Donbass. Le point avec Rosine Monezero.
Moscou affirme que les frappes ont visé des positions ukrainiennes dans certaines parties du Donbass ainsi que dans des villes proches de la ligne de front. Nous mettons progressivement en œuvre notre plan pour libérer les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou en référence aux deux régions rebelles de l'est de l'Ukraine que Moscou a reconnues comme des États indépendants. Selon la Maison-Blanche, le président Joe Biden a convoqué aujourd'hui une réunion virtuelle avec des alliés pour discuter du conflit en Ukraine. La Russie a expulsé 36 diplomates de Belgique et des Pays-Bas en représailles à des mesures similaires prises à l'encontre de ses envoyés dans ces deux pays. Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, se rendra dans les prochains jours à Kiev pour manifester l'engagement de son pays aux côtés du peuple et du gouvernement ukrainien, a annoncé mardi le gouvernement espagnol. Selon l'ONU, près de 5 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février.
Sur le dossier ukrainien, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé aujourd'hui l'offensive russe dans l'est de l'Ukraine et demandé aux deux parties de stopper les combats pour une pause humanitaire de 4 jours à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Cette suspension des combats servirait à l'évacuation des civils des zones de confrontation actuelles et attendues avec l'aide de la Croix-Rouge et à l'acheminement de l'aide humanitaire dans les zones les plus touchées comme Mariupol, Kherson, Donetsk et Luhansk, avance le chef de l'ONU. Cela dit, aucun couloir d'évacuation des civils n'a pu être organisé ce mardi, faute d'accord avec la partie russe, et ce, pour le 3e jour consécutif, a annoncé la vice-première ministre ukrainienne Irina Verzhchuk. La Russie a aussi multiplié ce mardi les annonces d'expulsion de diplomates de pays européens, belges, néerlandais et autrichiens. Cela en représailles aux mesures similaires prises récemment par ces pays à la suite de l'offensive russe en Ukraine. Voilà pour le journal. Vous suivez VO Afrique. À présent, la minute écho avec Mouamadou Moufa.
En Afrique du Sud, les inondations qui ont ravagé la région de Durban entre le 1er et le 10 avril auront des conséquences évaluées à des centaines de millions d'euros. Une première estimation des autorités pour la réparation des seules infrastructures routières s'établit à près de 354 millions d'euros. Le port de Durban, un des principaux terminaux maritimes d'Afrique, a été gravement touché. L'accès a été réduit par d'importants dégâts sur la route principale reliant le port au reste du pays et du continent. L'aéroport de Dakar est frappé par une pénurie de kérosène en raison d'une conjoncture internationale défavorable et son opérateur appelle les compagnies aériennes qui atterrissent à assurer elles-mêmes leur approvisionnement en carburant pour les vols de retour. Selon la presse locale, l'État sénégalais a pris des mesures pour que la priorité dans l'approvisionnement soit donnée à Air Sénégal et à l'armée.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. On connaît les quatre qualifiés de la conférence Nil pour les playoffs de la Basketball Africa League. Tout s'est décanté au Caire en Égypte après les matchs d'hier soir. Les Camerounais de FAP ont réalisé le bon coup en s'imposant devant un concurrent direct, Cobra Sport du Soudan du Sud 71-64. Les carottes sont par contre cuites pour les Congolais d'Espoir Foukache, dominé par les Angolais de Petro de Luanda 94-64. C'est la quatrième défaite en quatre matchs pour les Congolais éliminés, ce qui rend anecdotique leur dernier match de ce soir face aux Sud-Africains de Cape Town Tigers. FAP, qui affronte aussi ce soir le Zamalek déjà qualifié, est sûr de finir au pire des cas à la quatrième place qualificative pour les playoffs. En somme, sont qualifiés pour les playoffs le Zamalek d'Égypte qui restera premier peu importe l'issue du match de ce soir. Idem pour les Angolais de Petro de Luanda, les Sud-Africains de Cape Town Tigers et les Camerounais de FAP sont les deux autres qualifiés de cette conférence Nil. Les playoffs auront lieu à Kigali au Rwanda du 21 au 28 mai prochain. Que retenir de ces quatre qualifiés de la conférence Nil pour les playoffs? Analyse avec Amdine Sy, journaliste sportif et consultant, joint à Dakar au Sénégal.
Cette conférence nulle a été dominée par deux formations. Hein. Il s'agit du champion de Zamalek, mais aussi du Petro Luanda. Et les Égyptiens ont battu leur succès en pratiquant un basket fluide, un basket bien organisé, mais ils ont aussi battu leur succès sur des individualités comme Edgar Sosa, comme le Nigérian Djogou, mais également Abbas Mahmoud. Derrière cette équipe qui a séduit, on remarque quand même le Petro Athletic de Luanda. Les Angolais qui ont été demi-finalistes en 2001 à Kigali ont réalisé un bon parcours. Hein. Il y a deux autres qui ont réussi à composer le ticket. Il s'agit du Cape Town d'Afrique du Sud et du FAP du Cameroun. Ces deux clubs ont alterné le bon et le moins bon en s'inclinant devant les teneurs de l'éternel. Mais la grande exception de cette conférence de nul est l'équipe de Cobra du Sud-Soudan. Une belle équipe qui a réalisé de belles performances, mais qui n'a pas réussi à décrocher sa qualification.
Amdine Sy, journaliste sportif. Ici, en NBA, débuté samedi dernier, les matchs des playoffs se poursuivent. Golden State mène 2-0 face à Denver. Dans leur série du premier tour, les Nuggets ont été battus 126-106. À l'Est, le duel des Camerounais Pascal Siakam de Toronto et Joel Embiid de Philadelphie s'est achevé par une deuxième victoire autoritaire des Sixers contre les Raptors, dominés 112-97. De leur côté, les Mavericks ont surmonté l'absence de Luka Doncic, blessé, pour vaincre 110-104 le Jazz. Football, c'est ce soir qu'a lieu le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023. La Confédération africaine de football organise cet événement à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les 48 pays en lice ont été répartis en quatre chapeaux composés chacun de 12 équipes. 12 groupes de 4 équipes seront constitués. Les matchs éliminatoires débutent en juin prochain. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la prochaine CAN prévue en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara était face au Congrès dans la capitale politique du pays, Yamoussoukro. Deux décisions majeures sont sorties de son adresse aux parlementaires, la nomination du vice-président Thiemoko Meliékoné et la reconduction à son poste du premier ministre Patrick Achi, qui doit former un cabinet resserré. Notre correspondante Delphine Bouiz à Abidjan a recueilli quelques réactions de population.
Le président Alassane Ouattara a fait un état des lieux avec deux décisions majeures, la nomination du vice-président et la reconduction du premier ministre qui doit former un gouvernement resserré. Dans les rues de la capitale abidjanaise, les réactions ne se sont pas faites entendre pour cette sphère des finances.
Le nouveau vice-président, on pense que sur le plan économique, sur le plan social, il va beaucoup aider le président de la République. C'est un bon choix, un très bon choix. Je m'en réjouis en tant qu'Ivoirien, je m'en réjouis en tant qu'ancien.
On embrasse ce jeune informaticien.
Le vice-président, bon, moi, je ne le connais pas particulièrement. Je vais plutôt le juger sur les actions qu'il va mener à travers ça. Peut-être après, on peut se prononcer sur son travail.
Ce discours a été très suivi par les Ivoiriens, la réaction d'un citoyen.
Le chef de l'État a abordé tous les pans de notre société. Moi, personnellement, je retiens trois décisions très importantes. La première décision, c'est la nomination du vice-président de la République, un homme pétri de talent à la hauteur de la tâche qui lui sera confiée. Et le chef de l'État a parlé de la sécurité. Il a annoncé que l'État de Côte d'Ivoire ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des Ivoiriens. Et la question de la corruption, le président l'a dit en des mots très clairs.
Madame Da Kouyaté, juriste de profession.
En tant que juriste, ce qu'on retient ici, c'est le respect de notre constitution. Le président a pris la décision de nommer un vice-président, mais il lui fallait l'accord du Parlement. Raison pour laquelle nous avons été réunis en congrès. Le congrès est la tribune officielle qui permet au président de dresser un bilan des actions du gouvernement.
La reconduction du premier ministre est aussi appréciée.
Je salue la décision parce que les résultats accomplis en si peu de temps sont vraiment impactants. Voilà, je trouve la décision bonne.
Je pense que c'est une décision qui est quand même à féliciter dans la mesure où, vu le temps que M. Patrick Achi a passé à la tête du gouvernement, il a quand même amorcé beaucoup de chantiers qui ne pouvaient pas laisser inachevés.
Et puis la formation du nouveau gouvernement restreint est attendue dans les prochains jours. Delphine Bouiz, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Direction le Sénégal, très fortement décrié par une partie de l'opinion à son lancement, en raison notamment d'un investissement jugé trop onéreux par certains. Le train express régional se positionne déjà comme une solution à l'engorgement de Dakar, en facilitant le transport vers la banlieue à des milliers de Sénégalais. Reportage Seydina Abagay.
Il est 18h, passé de quelques minutes au centre-ville de Dakar et les bouchons s'étalent sur plusieurs centaines de mètres. Non loin du port de Dakar, une imposante bâtisse très colorée sert de gare pour le train express régional en sigle TER. Des dizaines d'usagers convergent vers le lieu pour regagner leur domicile. Au fil des mois, le TER est devenu une véritable alternative aux embouteillages, comme l'affirme Matar Touré, usager du TER.
Énormément de temps. Présentement, comme moi, de Tcharoy à Dakar, 17 minutes, on est à Tcharoy, on est chez nous. Donc, si on prenait l'écart, on allait faire 2 heures de temps, ou plus même, à cause des embouteillages. Non, c'est confortable dans la mesure où il y a des tickets mensuels, des abonnements, 15 000 francs le mois. Ça nous revient à 500 francs le jour.
Très controversé avant ses débuts, le TER est aujourd'hui globalement bien apprécié. Des usagers comme Yaya estiment que malgré le coût jugé onéreux par certains, l'investissement semble se justifier surtout en cette période de Ramadan.
Le train express régional est vraiment utile, même si c'est cher, ça vaut le coup. Son utilité est le plus important. Moi, j'habite Guédiouaï, dans la banlieue de Dakar. Si j'étais sur l'autoroute, j'allais rompre le jeûne dans les embouteillages. Ça nous permet d'être à temps chez nous. En plus, les gens viennent de plus en plus nombreux le prendre. D'ailleurs, au premier jour du Ramadan, il y avait des bousculades et des portes ont été endommagées. Mais maintenant, les gendarmes gèrent cela.
Face à l'absence apparente de solution face aux embouteillages qui étouffent Dakar, des automobilistes estiment qu'il est nécessaire d'étendre le TER et les chemins de fer à d'autres zones. Madame Thiam, automobiliste et usager du TER.
Si ça coûte 2 milliards, 5 milliards, 50 milliards, mais l'essentiel, les résultats sont en rendez-vous. Je suis sûre et certaine, étant automobiliste, aujourd'hui, si on pouvait avoir la possibilité de desservir pratiquement presque les grands axes qui se trouvent au niveau de Dakar et même dans les régions, moi je n'hésiterais pas à habiter en dehors de Dakar et prendre cela. Parce que là, au moins, je gère le temps. Et là, avec la route, je ne gère pas le temps.
Pour beaucoup de Sénégalais, l'utilité principale du train express régional est le gain de temps qu'il offre dans une ville qui est étouffée et très polluée par le nombre de voitures. Seydina Bagay, pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Les cas d'arrestation des pêcheurs congolais par la marine ougandaise sur les eaux du lac Édouard ont sensiblement diminué depuis le début des opérations d'assainissement de ces eaux par les forces navales de la RDC, mais les poissons sont encore rares dans les paniers car les miliciens et les pêcheurs illégaux sortent souvent de leurs cachettes. Notre correspondant Zanem Netizaidi a visité quelques-unes des pêcheries situées en plein cœur du parc des Virunga. Reportage.
Dans l'un des fumoirs du village de Lunya Senge, sur la côte ouest du lac Édouard, dans le territoire de Rutshuru, Jean des Dieux Kambalé et ses collègues fument du poisson destiné à être exporté vers les grandes villes de la province. Il fumait un millier de poissons par jour. Maintenant, sa production se limite à quelques 200 pièces par jour en raison de l'insécurité causée par le pêcheur clandestin en complicité avec le milicien Mai Mai.
Nous avons la capacité de fumer entre 300 et 1000 pièces par jour. Mais actuellement, nous arrivons à peine à atteindre 100 pièces. Mais aujourd'hui, nous espérons que le lac sera encore plein de poissons compte tenu des opérations militaires qui sont en cours. Mais nous aimerions que ces opérations se déroulent en même temps sur l'étendue du lac.
À Kiavinyonge, plus de 40 kilomètres plus loin, en territoire des Beni, la situation semble être plus ou moins calme. Kakule Kamukondo gagne sa vie et ses deux enfants poursuivent leurs études à Butembo grâce à la pêche.
J'ai deux enfants, l'un en troisième année et l'autre en deuxième année, dans la ville de Butembo. Ils y étaient allés pour les vacances et voulaient y rester pour les études. Ce sont tous des garçons.
La diminution du nombre de poissons dans le lac Édouard se justifie par la présence active de miliciens Mai Mai dans les zones, mais aussi par l'utilisation des matériels interdits par la loi sur la pêche. Le capitaine Amisi Wanyata est le commandant de la 33e base navale située à Vichumbi.
Il y a certains pêcheurs, notamment les pêcheurs clandestins, qui continuent toujours à détruire l'écosystème, mais néanmoins, nous sommes toujours prêts pour les traquer. Actuellement, vous voyez maintenant le travail que nous venons d'accomplir ici. Nous venons d'arrêter plus ou moins 60 filets et plus ou moins 45 pirogues pour ces derniers puissent cesser de continuer et pourtant même pour, pas pour les décourager.
Satisfaction pour la Fédération des comités de pêcheurs individuels, FECOPEI, l'ensigle, dont les membres ont été attaqués à plusieurs reprises par le milicien de Mai Mai, Josué Moukoura, secrétaire général de cette structure.
Nous sommes très contents puisque vous voyez, nous avons décrié maintes fois la présence des groupes armés Mai Mai qui ne cessaient pas de tracasser les pêcheurs, de torturer les pêcheurs, même tuer les pêcheurs. Et à cela s'ajoute aussi leur soutien aux différentes pêches illicites, même la carbonisation des braises au niveau de Tchanika. Aujourd'hui, depuis qu'il y a eu traque de ces groupes
forces armées. Les pêcheurs maintenant vaquent à leur travail sur le lac librement. Même nous, dans les différentes pêcheries, nous vivons là-bas sans crainte.
Pour rappel, le lac Édouard est à la frontière entre la République démocratique du Congo, qui possède 71% de sa surface, et l'Ouganda. Zanem Netizaïdi, de retour de Kiavinyonge, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Ici aux États-Unis, El Shafi El Sher, jugé coupable de 8 chefs d'accusation qui pesaient contre lui, risque la prison à perpétuité. Il connaîtra sa sentence le 12 août prochain. L'extradition et la condamnation de ce militant du groupe État islamique pourraient servir de modèle à d'autres personnes touchées par le terrorisme à l'étranger, selon des analystes. Mise en perspective, Serwan Kadjo, récit John Lyndon.
Un procès de 2 semaines dans un palais de justice de la Virginie a apporté une certaine justice aux familles des Américains enlevés et tués en Syrie. Un jury a déclaré le ressortissant britannique El Shafi El Sheikh coupable pour son rôle dans la détention de 26 otages occidentaux pour le compte du groupe État islamique. El Sheikh faisait partie d'une cellule du groupe État islamique connue pour leurs otages sous le nom de The Beatles en raison de leur accent britannique. Il a été capturé en 2018 avec Alexander Côté et tous deux ont été amenés aux États-Unis en 2020 pour être jugés. Côté a plaidé coupable en 2021. Le 14 avril, un jury a déclaré El Sheikh coupable de 8 chefs d'accusation liés à son rôle dans la prise d'otages et le meurtre des journalistes américains James Foley et Steven Sofloff et des travailleurs humanitaires Peter Kasik et Kayla Muller. Les familles des otages se sont félicitées de la décision du tribunal, affirmant que la justice a prévalu. À l'ouverture du procès, Diane Foley, dont le fils James a été enlevé en 2012, a souligné l'importance d'un procès équitable.
Je pense que nous devons faire le contraire de ce qui nous a été fait. C'est pour moi l'énorme contraste. Je veux dire, les otages britanniques et américains n'ont rien reçu. Ils ont été traités comme des animaux, ils ont été torturés, affamés, ils n'ont reçu aucun élément de justice. Je pense qu'il est important que nous montrions comment les gens civilisés devraient réagir face aux autres.
Et c'est pourquoi, selon les experts, ce procès revêt une importance majeure. Stéphanie Fogette est experte au Centre Soufan, une organisation à but non lucratif spécialisée dans la sécurité mondiale.
Les familles d'otages américains ont exprimé leur souhait que les personnes impliquées dans l'enlèvement et le meurtre de leurs enfants soient tenues responsables de leurs actes devant un tribunal américain. Cette affaire montre vraiment comment ces familles ont été à l'avant-garde et comment elles se sont battues avec persistance pour leurs enfants.
Les personnes impliquées dans des activités terroristes, notamment des enlèvements et des meurtres, sont rarement jugées dans le pays d'origine de leurs victimes. Randall Rogan est professeur de communication à l'université Wake Forest en Californie du Nord.
Pour les États-Unis et je pense pour les autres pays, cela démontre jusqu'où le gouvernement et les autorités américaines sont prêts à aller pour tenir d'autres personnes responsables de la mort d'Américains hors des États-Unis, en particulier dans des circonstances aussi flagrantes.
Le procès d'El Sheikh ouvre la possibilité aux organismes d'application de la loi américaine de poursuivre des affaires similaires contre des ressortissants étrangers responsables de crimes contre des citoyens américains à l'étranger, estime M. Rogan. Il offre également une voie aux familles d'autres personnes touchées par des activités terroristes à l'étranger qui veulent obtenir justice. Une fois encore, Stéphanie Fauget du Centre Soufan.
Cela pourrait très bien s'avérer être un modèle pour les familles et les survivants à l'avenir. Ils peuvent choisir de regarder cette affaire et se dire, c'est ce que nous voulons. C'est la justice que nous voulons pour nos proches.
Pour que cela se produise à nouveau aux États-Unis, dit Mme Fauget, il faut poursuivre une coopération multilatérale efficace avec les alliés et partenaires américains dans le monde entier.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.